Vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet de l'association des documentaristes ADOC. Dans le studio aujourd'hui, Santiago Laurent. Bonjour Santiago.
Bonjour Caroline.
Moi-même, Caroline Kim Morange, on va animer l'émission. Et à la technique, c'est Anne Galland. Bonjour Anne.
Bonjour.
Autour de la table aussi, deux invités. Amélie Cabossel, bonjour Amélie.
Bonjour.
Et Michael Zumstein. Bonjour Michael.
Bonjour.
Amélie et Michael, vos deux films nous entraînent dans vos familles, auprès de vos aînés. Amélie, de ton côté, il s'agit de ta grand-mère Michèle. Et Michael, de ta mère Colette, de son frère Roger et de sa sœur Nicole. Vous les filmez avec amour et délicatesse et nous suivons un petit pan de leur vie dans un monde qui peut sembler parfois hostile. Vos documentaires touchent à des questions difficiles, comme la vieillesse, la solitude, la mort. Mais vous introduisez tous les deux beaucoup d'humour et de légèreté dans vos films. Et c'est très réjouissant de les regarder l'un comme l'autre. Nous allons maintenant vous présenter à tour de rôle ainsi que vos films. Et donc je passe la parole à Santiago pour nous parler d'Amélie et de son film.
Ok, alors Amélie, tu es artiste et réalisatrice. Tu possèdes un master en photographie et en art contemporain à l'université de Paris 8 en Seine-Saint-Denis. Et tu es également diplômée d'un master en anthropologie sociale de l'école des hautes études en sciences sociales EHESS à Paris. Alors cette double casquette est mise au service de ta démarche artistique et te permet de poser un regard sur le sensible et sur les de poser un regard sensible sur les questionnements liés, je cite, au corps et au corps social. Ton travail a été diffusé au sein de multiples festivals et d'expositions en France et à l'international, notamment à Lisbonne et Berne, mais aussi à Quito et Medellín. Tu es aussi, ou tu as été, membre du collectif Diaf 8 et du studio Hans Lucas. Aujourd'hui, nous allons parler de ton long métrage documentaire Les Blanches Terres, sorti en 2019, et nous allons profiter de cette émission pour rendre hommage à ta grand-mère. Ce film dépeint le quotidien de ta grand-mère Michèle, dans un lieu dit isolé de Lorraine, nommé Blanche Terre, dont je cite, le charme échappe à celui ou celle qui ne fait que passer. Elle y a vécu toute sa vie comme enracinée. Veuve depuis 20 ans, c'est une lutte de tous les jours contre la solitude aux côtés de ses cousins et cousines, de ses rares amis ainsi que de ses voisins. Ce documentaire est aussi l'occasion pour toi de lui proposer à elle et à ses cousins et cousines d'être au cœur de ton nouveau projet photographique. Ce film est une aubaine qui permet de mettre la lumière sur les personnes âgées pour lesquelles la société n'a que très peu de considération. Il nous permet aussi de saisir les questionnements qui se jouent pour les protagonistes, mais aussi pour nous, qui voyons ces êtres aimés se préparer à partir. On écoute tout de suite un extrait.
Voilà le début des photos. Père, mère, cousin. Ah bah là, c'est mon mari avec une cousine. Ils font les oiseaux. Il s'était déguisé en femme, il a même mis une robe à moi. Et il danse, oh, en riant. C'était mon bonhomme, ça. Oh. 75 ans, mon Dieu, si seulement je les avais encore. Rosita, elle est devant le plat de beignet, elle. Hein. Oh, le François, oh, lui, il est tout de suite près de la bouteille de vin. Hein. Le Bernard. Oh, la Rosita, qu'est-ce qu'elle faisait jeune, là. Ah, ben voilà, tous les cousins, au restaurant, à Dombelle. Ben, il y en a déjà plein qui ont des cannes. Bon, on était une armée, là. Oh là là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 39, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46. On est plus de 50. On est beaucoup de cousins, puisque mon père était 13 gosses. Alors on a beaucoup de cousins. Alors les cousins mariés, ça faisait le double. Oh là là. Les décédés là-dedans.
Ma mère, t'es contente d'avoir collecté toutes ces photos?
Ah ben oui, heureusement. Et puis alors je dis heureusement que je me suis mis à les mettre dans des albums, parce que si c'était dans des boîtes, on aurait du mal de reconnaître tout ça. Mais maintenant, c'est les téléphones, alors c'est plus pareil. Alors moi, ce que je regrette, c'est que maintenant, alors on a une réunion de famille, tout le monde a les téléphones, tout le monde prend des photos, tu ne vois jamais de photos, on ne voit jamais de photos. Ou alors faut pleurer, puis réclamer, puis dire « Oh, je voudrais bien une photo, je voudrais bien une photo ». Alors ils les font développer, mais autrement, on n'a pas de photos. Les photos dans les albums, quand on a le cafard, eh ben on prend une paire d'albums et on regarde les photos. Ça remet un peu... ça remet le moral. Je fais ça quand je sais pas quoi faire des fois. Je regarde les photos. Ben, c'est les souvenirs. Hein. Si on n'a pas de photos, on a les souvenirs dans la tête, mais c'est pas la même chose. C'est pas...
Et pourquoi tu fais plus de photos maintenant?
Bon, j'en sais rien. Ben, moi... je suis hors du commun maintenant. Je ne peux plus prendre de photos.
Bah, je te posais cette question en fait parce que moi, en même temps que le film, je voudrais te photographier. Je trouve que ce serait bien qu'on fasse une photo de groupe avec tes cousins aujourd'hui, comme vous le faisiez à l'époque, et des photos individuelles aussi, où vous pourriez choisir les lieux, les poses, les expressions du visage.
Oh. Oui, mais nous, les vieux, on est traditionnels, on est de face, et puis c'est tout. Hein. Pour les photos, qu'est-ce que... ou alors faire des singeries.
En tout cas, vous déciderez avec moi et vous me direz les photos que vous voulez faire.
Oui, alors tu iras chez eux chaque fois.
Voilà, je dirais chez certains des cousins.
Mais il faudra du temps, hein.
Ben, on prendra le temps qu'il faut.
Ah oh, oui, mais en attendant, en entre-temps... entre-temps. Il faut pas longtemps hein, pour ça. Il faut pas si longtemps que de prendre des photos. Hein.
Du coup, voilà, après cet extrait, ouais. Et bah, tout simplement, est-ce que tu peux nous dire comment est née l'envie de faire ce film?
Alors, l'idée de faire ce film a été, est née vraiment très longtemps avant que je me lance dans ce film, parce que déjà, j'avais jamais fait de film. C'est mon premier film documentaire. Et comme tu l'as dit, Santiago, je viens plutôt des arts visuels à la base. Mais en fait, moi, j'ai grandi pas dans ce village, mais dans un village pas très loin. Et je passais beaucoup de temps, en tout cas, quand j'étais enfant, avec ma grand-mère et tous les gens qu'on voit dans le film, ses amis, etc. Et en fait, je pense que pour moi, c'était comme un petit théâtre. En fait, chaque jour, il se passait des choses, des gens, des invités passaient. J'écoutais leurs conversations et ça a duré toute ma vie jusqu'à ce que... enfin, presque jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, l'envie de faire ce film, ça a été de montrer en fait ce que je voyais moi en tant que... qu'observatrice participative dans la vie de ces personnes et de ma famille. Et en fait, c'est vrai qu'on parle d'un milieu quand même populaire, ouvrier, agricole, et de vie très peu visibilisée. Alors, certes, dans le cinéma documentaire, on peut rencontrer ces personnages-là, mais voilà, du coup, j'avais envie de donner à voir leurs histoires, une génération aussi qui, avec eux, n'existe plus, en fait, après eux, ces personnes qui sont nées dans les années 20-30 et qui ont connu la guerre, la fracture numérique, etc. Et voilà, donc j'avais envie, je pense, tout simplement de leur rendre hommage et de donner à voir des vies minuscules, pour reprendre le terme de Michaud, mais qui sont quand même des vies très inspirantes, fortes et d'une autre époque pour nous. Et du coup, moi j'ai une petite question par rapport au résumé un peu qu'a fait Santiago. Est-ce que l'idée du film, c'était de montrer ta grand-mère et ses amis et sa vie, et que le projet photo s'est greffé dessus, ou est-ce que c'est l'inverse?
Ouais. Non, la première réponse est la bonne, c'est-à-dire que moi j'ai toujours vu le potentiel cinématographique dans mes personnages, dans leur vie et leur personnalité. Il se trouve que il y a deux choses. D'abord, en fait, pour entre guillemets vendre un film comme celui-là, c'est pas si simple parce que ça paraît très banal, déjà vu, un énième film sur une grand-mère. Donc, je pense qu'il y a eu un moment en accord avec la maison de production avec qui j'ai travaillé, l'idée de trouver un fil rouge en fait à ce film qui le distingue un petit peu. Donc ça, c'est quand même des enjeux économiques, on va dire, qui ont une influence sur la création. Mais bon, c'est à tenir en compte. Et finalement, cette contrainte,
moi, m'a quand même donné un espace de liberté, puisque le fait de chercher ce fil rouge, ça m'a donné aussi ça a apporté une réflexion sur ma place dans le film. Et c'est vrai que les repérages que j'avais faits, où j'étais seule, etc., j'étais beaucoup prise à partie par eux, et que on était moins peut-être dans une fenêtre ouverte sur leur vie que sur l'interaction avec moi en permanence. Et donc, même les premiers repérages qu'on avait fait en équipe, on était beaucoup plus dans un film où on était dans un échange avec l'équipe. Donc, c'était plutôt un film aussi qui prenait en compte, en tout cas, la fabrication du film. Et ce n'était pas tout à fait ça que j'avais envie de faire. J'avais vraiment envie qu'on ait une fenêtre ouverte sur eux et que l'équipe s'efface. Mm-hmm. Et donc, le fait que moi aussi, je me positionne comme photographe dans le film, ça permettait que j'interagisse avec eux, mais sans être la petite fille ou Amélie et tout ça. Donc, ça me donnait une place un peu professionnelle auprès d'eux, on va dire. Et donc, je pense que ça a instauré un autre rapport. Et ça m'a permis aussi d'aller sur des terrains que j'arrivais moins à aborder avec eux en étant juste en tête-à-tête, sous forme d'entretien, on va dire. L'appareil photo a donné une entrée autour de la question du corps, du temps qui passe, de l'image qu'on veut laisser de soi. Mm-hmm. Donc ça a amené des questions plus philosophiques qui étaient plus compliquées pour moi à aborder juste en étant l'Amélie, comme ils disent, mm-hmm. elles disent dans le film.
D'accord. Donc, merci beaucoup pour cette petite introduction. Alors, je vais vous présenter maintenant Michael Zumstein. Michael, tu es réalisateur, photojournaliste et caméraman. Si je dis des choses fausses, tu me corriges. Et surtout, si tu as des choses à ajouter, tu pourras aussi ajouter.
Je le ferai.
Voilà. Tu es diplômé de l'École supérieure de photographie de Vevey. Tu as rejoint l'agence Vue en 2010 et multiplié les voyages, les enquêtes qui mêlaient parfois photos et vidéos. Et tu as notamment beaucoup travaillé sur l'Afrique et reçu divers prix pour tes reportages que je ne vais pas citer tous parce qu'il y en a beaucoup. En 2019, tu participes activement au long métrage de Boris Lochkin, Camille. Et tu fais l'image du documentaire Une caravane en hiver de Mehdi Aoudig. Tu réalises aussi le court-métrage Côte d'Ivoire, le tribunal militaire contre la police, qui sort en 2020. Puis, Il faut ramener Albert, le film dont on va parler aujourd'hui, qui sort en 2021 et qui a été en compétition au festival FIPADOC. Parallèlement, tu fais l'image pour plusieurs documentaires de Pauline Horowitz. Alors, Il faut ramener Albert est sorti en 2021. Dans ce film, on suit Roger, Colette et Nicole Lévy, frères et sœurs qui ont 275 ans à eux trois. Ils décident de faire revenir le corps de leur grand frère Albert, mort à la guerre en 1944 et enterré à Oran. C'est une vraie mission pour laquelle ils contactent les administrations et se confrontent aux technologies des emails, des SMS et d'Internet. Et c'est aussi un très beau moment de partage autour de ce frère dont jusque-là, ils ne parlaient pas du tout entre eux ou très très peu. Alors, on va écouter aussi un petit extrait pour présenter le film et après on en discute.
T-E-U-R, c'est le D originaire. S-U-E. La définition du F, elle est là sur la troisième ligne.
Oui, mais alors.
Il peut supporter un perroquet. Ah oui, ça c'est le mât. C'est le... Comment il s'appelle ce mât?
Il peut supporter oui. Un perroquet.
C'est le mât, le petit mât de trois lettres.
Bonne année. Le I. Là.
Moration.
Le
ah.
F.
Moi
j'ai mis remémoration.
Je viens d'une famille juive d'Algérie. Chez nous, on ne mange pas kasher, les garçons ne font pas leur bar mitzvah et il n'y a pas de mezouza à l'entrée de nos maisons. Ma mère Colette, 91 ans, sa petite sœur Nicole, 88 ans, et leur grand frère Roger, 98 ans, se retrouvent tous les après-midi dans l'appartement parisien de Roger. Ensemble, ils jouent, se disputent et échangent des nouvelles de leurs enfants. Tous les trois sont nés à Oran. Ils n'ont pas toujours été trois. Ils étaient quatre. Sur cette photo, manque Albert, leur frère aîné.
Colette dit que malédiction, ça va très bien.
Complètement.
Je t'ai dit depuis le début, mais on attend de vérifier.
D'accord, mais elle a vérifié.
Moi, je l'ai mis depuis une heure.
Elle a vérifié, Colette.
Mais moi, je pas marque mettre tout d'emblée.
J'ai pas vérifié, mais je l'ai marqué.
Mais c'est malédiction, c'est voilà. Sûr.
D'Albert, je ne sais presque rien. Engagé auprès de la France libre, il est mort sur le champ de bataille en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Albert a été enterré en Algérie par l'armée française il y a 77 ans. Roger ne supporte plus l'idée de laisser son frère tout seul là-bas. Aujourd'hui, il a décidé qu'il fallait rapatrier le cercueil de son frère.
Alors Michael, donc c'est le tout début de ton film. Et du coup, on entend tout de suite que tu as, il y a une voix off, que tu prends la parole. C'est un film qui mélange un peu le cinéma direct et cette voix off et des archives. Enfin, il y a un certain nombre de types de documents différents, d'images différentes. Et voilà, une première question qu'on se posait, c'était la même en fait. Comment t'es venu l'envie de faire ce film? Est-ce que c'est cette volonté des trois frères et sœurs de faire revenir Albert, où tu t'es dit il y a quelque chose à filmer, ou est-ce que c'est aussi une envie plus de filmer ta famille et tu t'es dit ah bah tiens voilà la bonne occasion?
Non, je vais
ou est-ce
partir
que c'est
sur la deuxième hypothèse parce que c'est autre chose, mais la deuxième hypothèse elle va m'aider à répondre. En fait, moi j'ai jamais photographié ni filmé ma famille. J'avais une peur bleue de lever un appareil photo vers tous les membres de ma famille, aussi parce que pour moi l'appareil photo je l'utilise dans des situations qui étaient des situations de crise, de guerre, de conflit, généralement en Afrique comme tu l'as souligné, et donc j'étais très superstitieux pratiquement et je les ai jamais photographiés. Le Covid est arrivé et je pouvais pas partir en reportage et je commençais un peu à tourner en rond et à ce moment-là mon épouse m'a dit mais va tourner ta famille, ils sont quand même assez drôles, ils sont quand même assez vieux aussi, donc ce serait pas mal de les avoir. Et quand j'y suis allé, ça j'ai d'abord commencé à tourner avec mon téléphone portable et j'ai dit que je reviendrais avec une caméra. Et à ce moment-là, je pense que chez Roger, donc l'aîné de cette fratrie, ça a déclenché quelque chose. Il était très âgé, il avait 98 ans au moment où j'ai tourné. Et il s'est peut-être dit dans sa tête, tiens, là, il y a une caméra, c'est peut-être le dernier moment de parler enfin. Et il a dit, il faut ramener Albert. Et il l'a dit à ma tante, qu'il a dit à ma mère, qu'il a dit à mon cousin, qui me l'a dit. Et là, je me suis dit, c'est quand même assez incroyable, qui c'est Albert, en fait, on ne le connaît pas, et là, j'ai compris qu'il y avait un film. Donc, c'est ça le début du... un film qui allait, en tout cas, une histoire qui allait commencer, et donc, un film qui allait peut-être avoir lieu, parce que, évidemment, ça se photographie pas, ça se filme.
Donc, c'est une rencontre entre ton désir de les filmer... et son désir peut-être de parler, la caméra qui a servi un peu de révélateur. Quoi.
Exactement, la caméra a servi de révélateur, de déclencheur. Et en fait, c'était pour Roger le moment de parler. Il fallait qu'il dise. Et c'était le moment de nous faire connaître aussi l'histoire d'Albert, de son frère, donc du quatrième membre de cette fratrie, qui par... pudeur, avec une immense tristesse, personne n'osait en parler parce que c'était une famille très unie, très joyeuse. Et quand Albert est mort à la guerre en Italie, eh ben tout s'est arrêté dans leur famille. Ils ont plus jamais parlé d'Albert. Ils ont fermé les pianos, arrêté la musique et ils sont partis. Ils sont partis d'Algérie, ils sont venus en France, pas du tout pour des raisons de la guerre d'Algérie. Eux, ils étaient, d'ailleurs, ils étaient tous les enfants étaient communistes. Enfin, en tout cas, avec des visions très humanistes sur l'Algérie, sur l'avenir de l'Algérie. Mais ils sont partis d'Algérie parce que c'était la signification, c'était la personnification d'Albert. C'était leur joie, c'était toute cette famille-là. Et donc, comme il n'est pas revenu, ils ont quitté l'Algérie. Et ils ont aussi laissé toutes leurs traditions et aussi tous les souvenirs. Et donc, pas de souvenirs, en tout cas pas d'oralité sur Albert.
Mmh. D'accord.
Et là, c'était le moment de parler. Ils étaient âgés et donc j'ai servi, en tout cas la caméra a servi de prétexte.
D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Un anno d'amore de Mina.
se te ne vai, da domani saprai. Un giorno com'è lungo e vuoto senza me. Sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno da. Servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai che cosa perdiamo se adesso te ne vai, non le ritroverai le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai quei giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai.
En regardant vos deux films, on s'est rendu compte voilà, qu'il y avait un trait qui était un dénominateur commun, qui était donc l'humour. Et voilà, on aurait aimé savoir comment s'inviter l'humour dans vos films. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, si Amélie, tu veux bien commencer.
Alors, ben moi je pense qu'il s'est invité tout naturellement, puisque au final, je crois que... Bah, les personnages sont quand même assez fidèles à qui ils sont dans la vie. Moi, j'ai pas cherché à faire émerger l'humour. Mais bon, voilà, c'est des personnes qui ont de l'autodérision, qui prennent aussi les choses très à cœur. Et donc, je pense que quand tous les éléments de la vie sont importants et ont une importance, il y a aussi... une forme d'humour qui peut naître de plein de situations. Par exemple, ben Michel, ma grand-mère, est très mauvaise joueuse. Donc ça, c'est quelque chose qui crée des situations assez cocasses des fois dans le film. Et pas qu'elle, d'ailleurs. Et il y a aussi, je pense, en tout cas dans leur groupe, à cet âge-là, une forme de... comment on peut dire, pour faire face à la mort... voilà, le prendre avec dérision, avec de la distance, mais sans l'occulter, mais voilà, essayer d'en parler avec une forme de distanciation, mais tout en n'éludant pas le sujet. Et voilà, ça se fait peut-être avec une petite forme d'humour. Et il y a aussi beaucoup de métaphores par rapport à ça dans le film.
Qu'est-ce que tu veux dire des métaphores ?
Il y a une scène par exemple à la fin où Michel prend un café avec Rosita, son activité préférée, et elle parle de la mort, et là Rosita parle d'un sujet très sérieux, de qu'elle partira peut-être avant son mari, etc. Et là ma grand-mère est en train d'essayer de tuer une mouche, et voilà, donc il y a quand même un lien métaphorique par rapport à ça. Donc l'humour, il se trouve aussi dans les images et dans les gestes. Je pense que c'est pas que dans la parole, dans mon film. Et
est-ce que c'est quelque chose que vous avez recherché au montage, dans les images que vous aviez?
Oui, je pense qu'il y a... On l'a pas cherché, ça s'est quand même présenté à nous assez souvent. Même quand elle lit voilà, les avis mortuaires, etc. Y a... Voilà, c'est un catalogue, quoi. Donc, Et puis, il y a une forme d'humour dans la manière dont elle cherche aussi les âges, à se situer, elle, dans la chronologie de ça. Est-ce que, bah, voilà, c'est quoi à peu près la moyenne d'âge? Ah bah, y en a quand même qui ont 67 ans. Bon, ça va, j'ai quand même vécu déjà 25 ans de plus. Enfin... Voilà, il y a toutes ces petites formes d'humour par petites touches.
Et tu parlais tout à l'heure de quand elle joue, et que c'est des scènes assez effectivement cocasses qu'on a l'occasion de voir, et on a justement préparé un extrait avec d'abord une scène de voiture qui est absolument fabuleuse, et ensuite effectivement une longue scène de jeu qu'on va pas entendre en entier parce qu'elle était un peu longue là pour écouter, mais qui est extrêmement drôle aussi.
Et puis le Gérard a oublié d'acheter des gâteaux.
Oublié d'acheter des gâteaux.
Ben oui, c'est vrai.
Pas de gâteaux.
Ben les veuves qui viennent nous le dire, on n'a encore pas joué. Ben j'ai dit, écoute, moi j'en ai encore deux au congélateur, on peut aller les chercher.
Alors se débrouiller pour les gâteaux, se débrouiller pour le café, mais qu'est-ce que
c'est? Non, ça fait deux, je dis de suite que ça va pas du tout, du tout, du tout. Oh non, hier c'était vraiment moche.
Ah oui, c'était moche alors.
Oh oui.
Et il parle pas de faire un repas?
Non, je sais pas c'est quand.
Bah d'habitude on en avait un vers le mois de mai, je
roule vite, Michel, attention. Hein.
Vers le mois de mai, je c'était sais. D'habitude.
Bah on est qu'au début, hein.
Bah je sais pas, il m'a pas appelé le mémé la semaine, si bien sûr qu'il a pas besoin. Oh, bah je suis bien content là. Parce que...
Bref. Dommage. Tic.
Le Bernard, il fait pourtant de la déprime, dit.
C'est pas parce qu'il a perdu son frère, quand même.
Si. Tu te rends compte, à 91 ans.
Il a envie de la déprime à tout âge.
Bah oui, mais il faut être raisonnable quand même, qu'il veut toujours mourir, en plus.
Un tout. C'est encore un, hein.
Et puis vous arrivez.
Voilà.
Vous savez que là, c'est...
Et vous savez que vous allez faire de votre maison derrière vous? C'est fait déjà, c'est rangé, vous.
Oui, mais... Ben oui. Mais personne ne reviendra ici.
Ben, les mais quand seront à vous, c'est beau chez vous, ça va.
Bon, oui.
Mais ça ne plaît plus aux jeunes.
C'est mon petit-fils qui voudrait revenir ici.
Oui, à la campagne. Ah,
j'aimerais bien. Papa, on viendra habiter ici. Hein.
C'est pas vous. Elle a coupé.
Ah, pas, oui, oui.
J'ai coupé. Ah, t'as coupé avec la dame de Coiron, je regrette.
Babelote, alors.
Bon, ça va, tu l'as pas annoncé.
Mais leur coton, je t'en prie.
Ah non, elle est partie.
J'ai plus le temps d'annoncer.
Ah ben, la carte est retournée, voyons.
Ah, j'ai plus le temps, j'ai pas le
temps de dire. Plus le temps de dire Belote.
Elle est terrible, cette femme, hein.
Ouais, du coup, dans cet extrait, on peut voir que malgré leur âge, je puis dire, il y a quand même des situations où elles se taclent, elles n'hésitent pas à y aller. Les règles, c'est les règles. Et voilà, c'est avec Michel aussi, qui est souvent au milieu de tout cet humour qui est lancé de part et d'autre de la table. Voilà. Qu'est-ce que...
Bah, moi, j'ai une petite question par rapport à la voiture, par exemple. C'est vrai qu'elle a l'air de rouler bien vite, Michel. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu au repérage? Tu t'es dit, il faut absolument que je fume la voiture parce que c'est drôle. Est-ce que tu avais le sentiment que tu allais pouvoir juste avoir des conversations intéressantes? Pourquoi est-ce que tu as filmé dans cette voiture, en fait?
Bah, c'est vrai qu'elle a toujours aimé conduire, et pour la petite anecdote, Michel, donc, elle a passé le permis à 60 ans puisque mon grand-père était en train de mourir d'un cancer, et qu'elle s'est dit, c'est une de ses nièces qui lui a dit, faut que tu passes le permis parce que déjà, ce serait mieux si tu pouvais l'emmener à l'hôpital, etc., plutôt que prendre des ambulances, et puis voilà, si jamais tu te retrouves veuve, voilà, tu vas être trop isolée. Tout. Donc, elle a passé le permis à 60 ans, elle l'a eu du premier coup. Donc, ça, c'est déjà. Il y a tout un truc autour de la voiture pour elle qui symbolise aussi son indépendance. et que bah, je fais une petite digression, mais je pense que c'est quand même important de savoir pour comprendre aussi son rapport à la voiture, c'est que elle bon, mon grand-père était quelqu'un de formidable, hein, je dis pas, mais bon, ça a quand même été un homme qui a beaucoup dirigé sa vie et qui ne voulait pas qu'elle passe le permis. Mmh. Donc elle a quand même été interdite voilà, d'avoir sa liberté par rapport à ça. Bon, elle avait une mobylette et tout ça, mais ça permet pas les mêmes choses. Et donc, une fois qu'elle a eu le permis, il fallait plus l'emmerder, quoi. Enfin, je veux dire, elle allait à droite, à gauche, chez ses copines quand elle voulait, etc. Et donc, je pense que ça a vraiment été le moyen de sa liberté. Et c'est vrai que, ouais, elle a une petite conduite sportive. Elle, avec l'âge, les vitesses, bah voilà, qu'on soit en première, en deuxième, on roule quand même à 60. Et voilà, dans tout le village aussi, elle a été repérée parce que on l'entend passer dans le village quand elle est en première à 40, quoi. Donc voilà, moi j'ai toujours entendu toutes ces histoires. Et moi-même, pour la petite anecdote, je ne montais plus en voiture avec elle parce que comme Hélène, j'étais pas très rassurée. Donc souvent c'est moi qui conduisais, mais bon, voilà, je me suis dit, effectivement, au début, j'ai plutôt filmé la voiture comme un moyen de sa liberté, pour le montrer comme un moyen d'échapper à l'isolement de son lieu de vie et d'aller à droite, à gauche, et aussi un outil qui lui sert dans toutes ses solidarités, d'aller chercher les copines, etc., mmh. aider l'un à faire les courses, etc. Et il se trouve qu'on s'est dit, on va poser deux caméras dans la voiture. Donc, on a mis deux caméras avec des ventouses sur le pare-brise. Mmh. Et on va voir ce que ça donne. On ne savait pas trop. Et en fait, c'était vraiment très drôle quand on a regardé les rushs. Et voilà, donc on a poursuivi un peu ce mmh. truc-là, sans trop savoir au début où ça allait nous mener. Mais c'était vraiment très drôle.
Ouais, c'est peut-être pas qu'elle va très vite, c'est qu'elle ne passe pas trop les vitesses non plus. Parce que le bruit, c'est pas possible. Mmh.
Elle ne respecte pas trop les stops. Enfin bon, ce genre de choses.
Ok. On va avoir la même question pour toi, Michael.
Alors, sur l'humour, je m'aperçois qu'on a comme de plus en plus de points communs avec Amélie sur la façon d'aborder nos films. Et évidemment que l'humour s'invite dans nos films de par les personnages qui ont, aussi bien sa grand-mère que dans ma famille, un sens de la parole et de savoir un petit peu se mettre en scène. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi le comique de situation. Donc là, c'est un petit peu différent parce que, en effet, comme vous l'avez signalé, donc ces trois frères et sœurs doivent apprivoiser Internet, des outils numériques, et que ça crée des situations, en effet, assez drôles, parfois même du comique de répétition, dont il ne faut pas tout le temps abuser, mais quand vous devez affronter les administrations françaises et algériennes, il faut multiplier en effet les tentatives, déjà pour essayer de les convaincre, de les avoir, et puis ensuite il faut pouvoir envoyer les emails, répondre au téléphone, etc. Donc c'est d'une part c'est ça, mais c'est vrai qu'ils étaient absolument, ils sont absolument charmants dans ma famille, et plutôt toujours très drôles et assez démonstratifs. Et il y a... comme par exemple, pour donner un petit peu à voir à nos auditeurs, c'est vrai que quand ma mère Colette se fait interpeller par la tablette et par Siri et qu'elle commence à dialoguer comme si c'était une personne à peu près normale en face, mais un peu étrange quand même. En tout cas, le genre de questions ou de réflexions que peut lui faire la tablette, elle trouve ça... Oui, assez particulier, mais elle veut bien y répondre quand même à ces questions. Donc oui, ça fait des situations comme ça. Et puis, aussi, ils prennent un certain plaisir à être filmés. Et je crois qu'à un moment, il y a une scène avec Roger, donc mon oncle, qui ne pouvait plus jouer au billard, mais qui me donnait les instructions pour jouer au billard. Et à ce moment-là, il suffit que je réussisse un point ou deux, et ça le met en joie. Et je crois qu'on arrive à partager la sincérité de son rire et l'humour. C'est, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on partage avec Amélie, c'est-à-dire que la frontière entre l'humour et la moquerie elle peut être parfois très fine. Il me semble que dans nos deux films, on est à chaque fois resté du bon côté de la tendresse, de l'attention, même si le petit pas de distance qu'on fait donne à voir le comique de la situation. Mais finalement, on ne s'en moque pas. Et je crois que c'est ça qui est appréciable dans nos deux films.
Tu veux ajouter quelque chose, Amélie ?
Non, je partage tout à fait ce que tu dis. C'est vrai que c'est des personnes qui ne vivent pas dans les mêmes endroits, qui ne sont pas des mêmes milieux, mais il y a quelque chose de très commun dans ce rapport à la vie aussi, je pense, dans leur rapport au monde aussi de 2000, des années 2010-20, ce nouveau monde, quoi.
Oui, bien sûr. Et en fait, ça a été... Moi, j'ai découvert beaucoup de choses ensuite au montage, au niveau de l'humour. Tu posais la question tout à l'heure à Amélie. Amélie. Et en fait, moi, au montage, je me suis rendu compte que les situations étaient vraiment drôles sur le moment. Je revenais le soir et je racontais un peu ce que j'avais vécu dans la journée et je me disais, oh non, quand même, c'est trop, quoi. Et finalement, au montage, le dosage se fait et la distance que permet le montage nous permet de mettre en opposition ou au contraire d'appuyer ces endroits-là. Et je crois en effet que ces personnes qui sont âgées, elles sont assez âgées pour avoir la distance sur elles-mêmes, elles nous autorisent, nous, à pouvoir justement avoir ce petit trait d'humour, en tout cas de pouvoir le montrer dans le film.
Mm-hmm. Parce que vous êtes aussi très très proches, donc j'imagine aussi qu'elles vous font une confiance absolue, quoi.
Oui, je pense que dans nos deux films, on sent qu'on a toute la confiance des membres de notre famille, des gens qu'on filme, et c'est justement quelque chose à pas trahir, parce que Amélie pourra répondre de son côté, mais dans notre famille, il y a les cousins, les petits cousins, et ce serait, moi, je l'aurais très mal pris d'insister trop sur un point qui aurait pu froisser les membres ou les fils ou les petits-fils de la famille Roger, de ses enfants ou de Nicole. Donc c'est aussi, il y a des fois dans le montage, dans une scène, c'est tellement gros qu'on en dit on va la mettre, et puis en fait tu dis non quand même, et puis ça va pas, et puis finalement dans la douceur et dans le montage qu'on peut avoir, c'est là où on retrouve l'humour. Mais en effet, il faut faire attention à ça, à pas basculer du côté de la moquerie et rester dans la tendresse.
Tu parlais du fou rire de Roger. Ah, tu voulais rajouter quelque chose, Amélie, excuse-moi.
Dire justement, effectivement, que... je sais pas, toi, Mickaël, comment tu l'as vécu, mais en voyant ton film, je pense qu'il y a quelque chose aussi de très commun dans le pouvoir qu'on a avec une caméra face à des personnes qui sont totalement éloignées de cet univers, et que c'est une forme de responsabilité aussi de filmer de façon, éthiquement, j'ai envie de dire. Alors là, c'est notre famille, donc y a une confiance directe, et voilà, mais c'est aussi une question qu'on peut se poser généralement dans le documentaire, et je trouve que on est vraiment dans des formes de respect dans les deux films. Et peut-être aussi une chose, et je sais pas toi comment tu l'as vécu quand tu as fait des projections de ton film, etc., avec un public, mais moi, je sais que ça me réjouit beaucoup de vivre le film en salle avec le public, et de voir aussi comment l'humour, ça, comment dire, emporte aussi les spectateurs, spectatrices, et rend attachant les personnages. Je sais que beaucoup de gens me disent moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré ta grand-mère après le film, que j'ai l'impression de la connaître, etc. Et donc, je pense que l'humour y est pour beaucoup, mais aussi c'est une forme de partage.
Complètement, c'est une porte d'entrée extrêmement importante dans les projections. Et tu fais vraiment bien de le dire, parce que Moi, j'ai pris conscience de l'impact mesuré, mais de l'impact que ça pouvait avoir sur les spectateurs, en effet, puisque à la fin des projections, il y a toujours les débats, et que il y a un processus d'identification qui se fait d'autant plus facilement que l'humour est intervenu, a fait tomber les barrières, parce que quand on fait des films sur des personnes âgées, les gens dans la salle, ils n'ont pas envie de se considérer comme des personnes âgées, ils n'ont pas envie que leurs parents de les voir vieux, mais par contre, quand il y a de l'humour, ils peuvent tout à fait attraper un petit bout de, bah voilà, de la personnalité de Roger ou de Michel, et dire, bah oui, moi, ma mère, elle est comme ça, ou ma grand-mère, c'est exactement ça. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe, et de façon plus large, j'étais surpris dans les projections, que finalement, moi, j'avais l'impression d'avoir une histoire extrêmement précise, particulière, avec ce grand-oncle qu'on n'a pas connu, etc., etc. Et puis, en fait, grâce à l'humour et donc grâce à l'adhésion des spectateurs, je me suis rendu compte que finalement, c'était une histoire très française. On a tous dans nos familles un grand-père qui est parti à la guerre, un grand-oncle qui n'est pas revenu, un silence qui s'est établi. Et grâce au fait de désamorcer des situations avec un peu d'humour, finalement, les gens peuvent parler de ces silences, ou en tout cas peuvent parler de leur famille, eux aussi.
Tu mentionnais le fou rire de Roger tout à l'heure, quand tu jouais au billard. On va l'écouter, du coup. C'est l'extrait qu'on avait sélectionné.
Voilà. Là, je vais me trouver mal. Ah, incroyable. Parce que piquer de loin, c'est difficile. Ah, là, tu as piqué à 50 cm, c'est un exploit, c'est fantastique. Et elle est allée plein de billes, en plein. Oh là là. Ah ben Yves, oh, il tient pas le coup, là. Oh là là. Allez, un poulet. Essaye un poulet. Parce que la rouge ne t'enlèvera pas la blanche. Elle n'est pas dans l'axe. Alors fais couler, couler en regardant la blanche. Mais pleine bille, en plein milieu de la rouge, en haut et pleine bille. Voilà. Je t'écris tout le scénario. Elle n'était pas dans l'axe. La rouge est à plein. Magnifique, oh là là. Oh.
Alors, on vient d'entendre le fou rire de Roger, et justement, on est en train de se poser la question si t'avais réussi ton coup à ce moment-là en jouant au billard, ou s'il se moquait de toi, justement.
Non, il se moque pas de moi, mais Roger, il m'a appris à jouer au billard français il y a 30 ans, on jouait beaucoup ensemble, et avec l'âge, des difficultés physiques, il pouvait plus jouer, tenir la queue du billard et peut-être voir aussi un petit peu moins bien. Donc du coup, en fait, je jouais par procuration devant lui. Il était un petit peu spectateur et surtout acteur des coups que j'allais faire au billard, puisqu'en fait, il me dit, prends-la à gauche, prends-la à droite, passe par derrière et tu vas toucher l'autre boule. Et en fait, c'est étonnant parce que moi, j'ai gardé le souvenir qu'on jouait ensemble, véritablement. D'habitude, avant, on était l'un contre l'autre, mais là, on jouait ensemble et c'était absolument un moment de partage vraiment délicieux pour moi et tous ceux dans la famille qui ont connu Roger le connaissent comme joueur de billard et on connaissait sa joie et son enthousiasme quand les coups fonctionnaient bien. Et donc là, le coup sous sa direction a très bien fonctionné et ça le rend heureux. Et évidemment, ça me rend heureux. J'espère que ça rend les gens aussi heureux de l'entendre rire.
Exactement, et ça c'est sûr, ça va être très communicatif. Et tu as filmé en posant la caméra au coin du billard. Pourquoi c'est un cadre assez surprenant. Ça semble indiquer que tu filmes seul. Est-ce que je voulais savoir si c'était le cas. Et puis voilà, pourquoi avoir choisi ce cadre à ce moment-là.
Alors, En fait, je vous ai parlé au début. Au début, j'ai filmé avec un iPhone. Et la première chose que j'ai faite, c'est de filmer une partie de billard. Et avec l'iPhone, je n'avais pas où poser. Donc, je l'ai posé dans le coin du billard. Ça tenait très bien. Et le plan, fonctionnait. Et donc, par ailleurs, ensuite, moi, au départ, je tournais sans trépied. Donc, je posais le billard là où je pouvais. Je posais la caméra, le billard c'était difficile, c'est 800 kilos, je posais la caméra là où je pouvais, et comme j'avais une référence avec l'iPhone de cet angle-là, et puis dans le film, c'est un autre point commun qu'on a évidemment avec Amélie, c'est que je rentre aussi dans le champ de la caméra, et c'était là une façon, même si on ne me voit pas, on voit juste mes bras, etc., c'était une façon aussi d'introduire pour plus tard, où on allait me voir en entier, une façon de me faire rentrer dans le champ et dans l'histoire.
Mmh. D'accord. On avait aussi pas mal de questions sur la manière dont dont vous aviez peut-être, et c'est une question qu'on se posait justement vraiment, réfléchi avec vos protagonistes sur des scènes, essayer de les faire entrer dans la fabrication du film. Et donc voilà, on voulait vous demander un petit peu si c'était le cas et comment vous aviez réfléchi ça.
Alors dans Les Blanches Terres... La fabrication du film, effectivement, elle s'est faite... moi, dans l'écriture, j'ai beaucoup écrit des choses que j'avais observées. Et finalement, c'était assez... je dirais pas simple, parce que c'est jamais simple, mais en tout cas, je connaissais très bien les personnages, leurs phrasés, etc. Et donc, c'est vrai que je leur ai proposé de... Là, le film est finalement assez écrit. Donc j'avais un séquencier, etc. Et donc je leur exposais un peu les scènes que je voulais filmer, etc. Et je reviendrai peut-être là-dessus parce qu'il y a une petite anecdote assez drôle avec Michel sur ça. Mais bon, je voulais juste dire que ça, voilà, ça a été discuté avec eux. À des moments aussi, eux ont demandé des choses. Par exemple, il y a un des cousins de ma grand-mère, François, qui, lui, voyait vraiment dès le début le film comme une trace et quelque chose à laisser à ses fils, à ses enfants. Et donc, il m'a demandé d'aller filmer ses enfants à la ferme, etc. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on a filmées, finalement, qu'on n'a pas gardées au montage, puisque ça rentrait plus dans la ligne finale du film. Et donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi tout le projet photo, moi, qui est vraiment, pour le coup, à 100% élaboré avec eux dès le début. Et on le voit... dans la scène que vous avez diffusée en extrait au début, c'est que lorsque moi je leur propose de les photographier, j'ai aucune idée de ce que ça va donner au départ. Et bon, après, finalement, ils sont assez pragmatiques. Et ma grand-mère, dès le début, dit ben, nous, on est des vieux, donc on est de face, et puis c'est tout. Hein. En gros, on veut un portrait classique et c'est clair et net, quoi. Donc, bon, bref. Et donc, petit à petit, ensemble, on crée ce projet photo. Mais du coup, c'est vrai que dans la fabrication, il y a des scènes, par exemple, au début, ma grand-mère, donc, elle vit quand même dans un village de 300 habitants, même pas. Et il y a tout un truc, quand même, avec le dispositif de la caméra, puisque moi, j'ai filmé avec une équipe. Et on était que trois, mais c'était quand même un petit dispositif. Au début, elle ne voulait pas qu'on aille dans le village. Elle ne voulait pas qu'on filme, par exemple, au club de cartes, parce qu'elle avait peur de l'image, quoi. Elle n'avait pas envie de donner l'impression de vouloir se rendre intéressante, d'être au centre de l'attention, etc. Et ça, il y a une petite scène cocasse, mais qui sont dans les rushs. C'est qu'à un moment, elle a un micro HF et nous, on la filme de l'extérieur de la maison à travers sa fenêtre et elle regarde la télé avec son HF, et là, il y a Hélène donc, qui l'appelle, et donc elle lui parle de son problème du moment, elle dit « mais ils aimeraient bien venir au club avec moi cet après-midi, mais en fait, j'ai vraiment pas envie, moi j'ai pas envie qu'on dise « ouais, la Michelle, elle fait son intéressante avec la caméra et tout, donc moi je m'en fous, ils viendront pas, et puis de toute façon, je les emmerde, c'est comme ça et tout ». Voilà, donc ça c'était assez drôle, et on l'a pas eu, on l'a pas gardé, puisque voilà, on n'a pas choisi de jouer l'équipe, mais voilà, il y a eu des discussions quand même sur pas mal de séquences. Et au final, c'est pas que j'ai essayé de la convaincre, mais elle a compris comment, pourquoi c'était important quand même de la voir aussi interagir avec les autres personnes du village. Et elle a finalement accepté qu'on la suive dans ce, dans ces parties de cartes.
Et on s'est notamment posé la question pour des scènes comme celle où elle dort, mmh. ou la séquence de Noël et du réveillon, où on la voit seule. Alors, en fait, certains de nos collègues qui ont été un peu troublés parce que finalement, on t'a vu avant, on sait que t'es là. Bon, en dehors du fait qu'il y a quelqu'un qui filme, donc forcément, il y a quelqu'un. Mais voilà, il y avait la question, est-ce que du coup, ça a été un peu préparé avec elle pour montrer un peu sa solitude quotidienne ? Est-ce qu'elle a proposé ce genre de scène ? Voilà, il y avait un peu cette question, cette question-là.
Oui, ben c'est vrai que ça a été préparé. Ben, c'est vrai que la scène de la chambre pour elle aussi, pareil. Enfin, moi j'avais envie. J'avais envie qu'on puisse la voir, comment dire, le soir avec son chapelet. Voilà, son rapport peut-être à la religion et à, en tout cas à la spiritualité, une forme de spiritualité et tout. Et c'est vrai que cette scène de chambre aussi, elle renvoie à sa solitude. Alors, elle est dans l'obscurité, mais on voit aussi de nouveau le portrait de mon grand-père sur la table de nuit. Donc, c'est un peu comme aussi montrer, comme il y a toute une réflexion sur la photographie, la présence de cet absent, mais qui est toujours là à travers la photographie. Et cette scène, ça n'a pas été évident. Elle m'a dit à un moment, mais en fait, je préférais que vous me filmiez dans ma douche que dans ma chambre, quoi.
Oui.
Et oui, parce que, en fait, l'équipe. Enfin, c'était moi et deux hommes, et du coup, pour elle, c'était quand même pas anodin que deux hommes la filment dans son lit, etc. Mais je pense que elle a compris l'enjeu de cette scène, et après, elle était très proche aussi de l'équipe, donc il y a quand même une confiance qui a dû se créer petit à petit. Mais voilà, et c'est vrai qu'il y a eu des moments, on a quand même filmé pendant un an. Il y a eu des scènes où, à des moments, elle en avait marre qu'on travaille, entre guillemets. Elle aurait préféré qu'on fasse une partie de scrap parce qu'elle était devenue très familière avec le chef-op et l'ingé son. Mais il y a eu des petites négociations, on va dire. Et elle a impulsé aussi quelques scènes. Par exemple, elle a voulu qu'on la filme. Elle avait un rapport très fort avec sa grand-mère, donc elle a voulu qu'on la filme sur la tombe de sa grand-mère, qui sont des scènes qu'on n'a pas forcément gardées à la fin. Mais oui, il y a eu des allers-retours comme ça entre elle et nous. Et là, pour parler de la scène de Noël, c'est vrai que c'est quelque chose de totalement artificiel. On l'a rejoué. Mais pour elle, c'était assez naturel. Elle a pas spécialement mis d'obstacle à ça. Après, c'était un jour où c'était en fait le jour de ça faisait 20 ans que mon grand-père était mort, ce jour-là. Donc il y a une forme d'émotion puisqu'elle est face à ce portrait qu'on voit dans le film. Et donc on connaît pas forcément la raison de son émotion et peut-être qu'elle est l'émotion qu'on la voit ressentir dans le film va peut-être dans le sens de la solitude, un jour de Noël, etc. Mais en fait, c'était autre chose, quoi. Voilà, c'était plutôt cet hommage.
Ça arrive très souvent que les personnages, je rebondis sur ce que tu dis, Émilie, que les personnages suggèrent des scènes. Il y a des fois, on se dit, tiens, il peut se passer quelque chose, tiens, pourquoi pas. Et puis d'autres moments où on se dit, bon, bah, je vais la filmer. Hein. Peut-être que ça servira, je ne pense pas que ça rentrera dans le film, mais je ne dis rien. Mais comme il y a une confiance qui s'est, alors pas instaurée, mais en tout cas il y a une histoire de confiance, je pense qu'on est tout à fait d'accord pour aller filmer une scène dont on ne sait pas tout de suite si elle va rentrer, ou même des fois on est persuadé qu'elle ne va pas rentrer. Mais après, je crois qu'il y a aussi une sorte de contrat qu'on passe avec nos familles, où on est dans un cadre, on donne une situation, et ça me fait plaisir, Amélie, que tu dises, ben, cette scène-là, on l'a un peu, tu as dit le mot artificiel, je crois que c'est, en fait, l'artificiel donne un côté qui est peut-être moins sincère, mais on peut suggérer des choses pour qu'il se passe à l'intérieur, voilà, une émotion. Et c'est très juste quand tu dis, ben là, à ce moment-là, elle était émue peut-être pour autre chose. Mmh. Et en fait, finalement, il y a une émotion qui sort de cette scène. À un moment dans Albert, dans le film dans Il faut ramener Albert, il est question d'aller voir l'endroit, la tombe où Albert va être, voilà, va être enterré une fois qu'il sera ramené en France. Et moi, je me dis, ça va être une scène comme ça, on va le filmer, puis je vais le filmer devant la tombe, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et puis d'un seul coup, Colette, ma mère en l'occurrence, se met à s'adresser à ses parents et à leur dire, ben voilà, on va ramener Albert, moi je vous aime beaucoup, vous êtes moi, etc. Et c'était très surprenant, parce que alors, pour le coup, j'avais absolument pas prévu ce truc-là. Moi, j'avais prévu une scène, finalement, qui était presque un plan de coupe, un petit peu plus long. Et finalement, ça a pris une importance. Donc, en fait, on passe des contrats avec nos personnages. Et puis, chacun, aussi bien eux que nous, on les tord un petit peu. Et puis, finalement, on s'accorde grâce à cette confiance mutuelle qu'on a entre eux et nous.
Là, en fait, elle faisait concrètement une proposition, si on peut dire, mais sur le vif, quoi.
Oui, tout à fait, c'est de l'impro. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal, en ce qui me concerne, à faire respecter le cadre que j'avais prévu. Parce que, aussi, ils se sont très rapidement mis, Roger, Nicole et Colette, à s'adresser à moi et à regarder à la caméra et à me parler. Et moi, j'étais terrorisé par ça. J'ai pas une formation de documentariste, de réalisateur, mais j'avais compris ou cru entendre que le documentaire, c'est quelque chose, les gens regardent pas la caméra, on est juste là pour observer, on ne touche à rien, etc. Et puis, finalement, j'ai compris que non. Alors là, ils m'obligeaient à intervenir, ce qui explique la voix off que finalement on a mis tout à la fin du film, parce que j'ai fait d'abord un montage sans voix off. Mais oui, ils m'ont obligé en quelque sorte à rentrer dans le film, et ça, c'était pas prévu, mais ça arrivait beaucoup de fois que voilà, des scènes organisées finalement finissaient en une désorganisation totale. Mais comme le cadre, et ça, je crois que c'est important de redire, voilà, toi, t'avais Amélie, t'avais un séquencier, tu savais ce que t'allais tourner. Ça, c'est très important d'avoir l'idée primaire, de se dire, bah tiens, ça c'est la direction. Et puis, c'est vrai qu'à l'intérieur, il peut se passer des choses.
Alors, on va peut-être écouter un extrait du film d'Amélie, dans lequel on entend... c'est un moment où tu photographies Michel. C'est le moment où tu la photographies. En fait, tu as fait certainement plein de photos d'elle. Mais ce moment-là, en tout cas, c'est dans le film. Et voilà, on va écouter. On voit à l'image ton appareil photo et on voit évidemment Michel derrière. Donc, on comprend tout de suite qu'il y a ce dispositif photographie, film en même temps, etc. Tu voulais dire quelque chose, Michel? Non.
Non, c'était pour t'aider. Mais justement.
On y va.
Non, c'est mieux là-dedans.
Alors, où ça? Où ça te fait? Entre les trois arbres, là?
Un peu plus loin. Comme ça, on verra les satins. Bon, on serait bien, là, non? On a le sapin bleu derrière nous. On n'est pas bien, là?
Si, t'es bien, là. T'as quoi comme vue face à toi?
Hein?
Tu vois quoi face à toi? Est-ce que tu peux me décrire le paysage que tu vois en face de toi?
Bon, je vois un parc. Et puis, au loin, il y a un petit bois. Avec quelques sapins qui font de la verdure. Il y a une souricière pour quand ils rentrent les vaches, ils les mettent dedans, comme ça ils montent dans le camion. C'est un petit peu tristouné parce qu'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de feuilles aux arbres, alors c'est un petit peu sévère. C'est vraiment morne. On voit bien qu'il n'y a pas de vie. On voit même plus les oiseaux. Bah, c'est nécessaire de toute façon. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas de vie après. Il faut qu'il y ait un petit peu le calme, puis la vie revient au printemps. Alors c'est le monde qui tourne, quoi. S'il n'y avait pas d'activité dans la nature, eh ben, il n'y en aurait pas pour les bêtes non plus. Alors les bêtes, elles reviennent au printemps, ça fait de la vie qu'il n'y a pas en ce moment. Ou alors il y a une petite vie intérieure, dans, il y a les vers de terre, il y a tout ça qui font quand même que la nature vit un petit peu, mais à l'intérieur, ça ne se voit pas. Moi, j'aime mieux le printemps, parce que le printemps, on voit les bêtes, on voit tout ça. Moi, je me sens une toute petite chose.
Alors, on vient d'entendre Michel, à la suite de ta demande de lui décrire le paysage dans le dispositif où tu prenais les photos. Ça me fait penser, il y a beaucoup de plans qui reviennent dans ton film, notamment le plan de la fenêtre qu'on voit à un moment, on le voit depuis l'intérieur vers l'extérieur, et après depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et là, du coup, je lui demande un peu ce qui se passe en elle quand elle voit quand elle va prendre la photo. Et par rapport à ces plans, j'ai l'impression que il y a aussi le plan où on voit le jardin, on voit les saisons qui passent dans le jardin et elle qui s'active dans le jardin et tout ça. De quelle manière ces plans-là, enfin, est-ce qu'ils ont été pensés pour nous faire accéder à son intérieur ou comment ça s'est un peu je ne sais pas si j'ai été claire dans ma question.
Si, tout à fait. Ouais. Oui, bah, c'est vrai que je pense que dans mon film, il y a tout un lien entre le rapport de ma grand-mère à son environnement, au lieu où elle habite depuis plus de 40 ans, et son rapport contemplatif, je pense, à la nature, aux saisons. Et en fait, pour moi, il y avait une volonté... dans le film, de me mettre à son rythme, de m'adapter à sa temporalité, qui est aussi, je pense, on le voit dans le film, plus active au printemps et à l'été, et quand même plus calme et reposée l'hiver. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en milieu rural, quoi. Le fait de devoir, de toute façon, il n'y a pas le choix, s'adapter aux saisons, quoi. C'est, il neige, ben, on ne va pas aller, je ne sais pas moi, faire du shopping, prendre la voiture. Et... Donc, voilà, pour moi, c'était important de rester au plus juste de leur temporalité en tant que personne âgée aussi. Alors, elles sont hyper dynamiques, hein, et il y a des jours... Je pense que ma grand-mère à 85 ans était plus dynamique que moi à 35, mais bon, voilà. Mais c'était ça, c'était vraiment montrer, en fait, ce que c'est aussi d'être dans un corps de personne âgée, quoi. Il y a quand même des formes d'empêchement, et il y a peut-être aussi une introspection un peu plus forte sur soi, et ce rapport au paysage, qui est aussi comme un rapport à l'existence, quoi. Je pense que j'ai aussi cherché à montrer dans le film le rapport des corps à leur environnement, et finalement le corps de ma grand-mère, j'ai essayé de le montrer à un moment aussi quand elle va chez le kiné, c'est aussi un corps qui est un paysage, en fait, qui est totalement incorporé dans ce territoire. Et donc c'est ça, c'est la porosité entre son environnement et elle-même. Et voilà, une personne bien, bien ancrée.
Mmh. Mmh. Non, c'est vrai que la scène qu'on vient d'écouter, c'est un très beau moment parce que déjà, elle décrit le paysage qu'on ne faisait que voir jusque-là, et c'est beau de le voir par ses yeux, en fait. Et puis, tu arrives à créer un vrai dialogue en prenant un peu pour prétexte, mais en te servant de ce moment de photographie. C'est vraiment un moment intéressant. On va faire une petite pause musicale et on revient sur ces sujets dans trois petites minutes après avoir écouté Take Me Home, Country Roads de John Denver.
almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4. Dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet avec nos deux invités du jour, Michael Zumstein pour Il faut ramener Albert et Amélie Cavossel pour Les Blanches Terres. Et Amélie, tu avais une petite question.
Oui, tout à fait. En fait, comme on parlait juste avant de la question du rythme des personnes âgées, de se mettre à leur rythme, etc., j'avais envie qu'on en parle avec Michael dans la fabrication de nos films. Comment aussi, en tant que réalisatrice qui sommes plus jeunes que nos personnages et de leur famille, etc., on respecte aussi leur fatigabilité, c'est plutôt ça. Enfin, comment on travaille en fait avec des personnes âgées sans trop les épuiser.
Bien sûr, c'est une question, je veux dire, c'est presque la première question qu'on doit se poser, et je te renverrai une petite question après. Mais oui, sur Albert, c'était... alors, j'avais cette opportunité d'avoir trois personnages, donc c'est vrai qu'il y avait des fois où quand Roger n'était pas en forme, je venais chez lui et je voyais qu'on n'allait rien faire aujourd'hui. Puis j'avais quand même un autre écueil, c'est que il fallait que cette quête d'aller chercher le cercueil de leur frère en Algérie, il fallait que ça avance administrativement, et que quand ils n'arrivaient pas pour la 20e fois à envoyer un email. On pouvait encore essayer des jours et passer des heures devant un ordinateur, et que ça les épuisait aussi, puis ça les exaspérait, puis ça les déprimait. Donc, moi, des fois, je me suis posé la question de savoir comment faire avancer le film en débloquant ou en appuyant sur le petit bouton en haut à droite qu'ils n'avaient pas vu, parce qu'autrement, je pense qu'ils auraient pu, en effet, avoir des grands problèmes de santé face au numérique. Mais j'avais quand même cette chance de pouvoir tourner seul et donc de faire le son, de faire l'image et puis des fois de venir. J'habitais pas loin de chez eux, en tout cas en 20 minutes en métro, une demi-heure en métro, j'étais chez eux. Donc j'avais cette possibilité-là de revenir bredouille en quelque sorte. Mais du coup, je me permets de te renvoyer la question à toi, parce que quand on est avec une équipe, un ingé son, qu'on a du matériel, un cadreur, soi-même, c'est pas infini non plus. Donc comment t'arbitrer entre, j'ai une journée, il faut que j'ai quand même des choses à la fin de la journée avec des scènes que j'ai décidées, et puis justement, la fatigue, ou même parfois même le mauvais temps qui pouvait vous empêcher d'aller à un endroit à un autre. Comment t'arbitrer ça?
Je pense qu'on a quand même eu de la chance au global, où franchement, les personnes qu'on a filmées étaient quand même relativement en forme. Et c'est vrai que, oui, voilà, par exemple, sur une journée, enfin, nous, on travaillait vraiment toute la journée, quoi, avec l'équipe, puisque l'équipe venait de Strasbourg, moi de Paris. Donc, on travaillait vraiment des fois de 5h du matin pour choper les levées de soleil jusqu'à tard le soir. Et je pense qu'on découpait un peu la journée pour rythmer, quoi, et ne pas non plus accaparer Michel tout le temps. Donc, effectivement, j'ai plusieurs personnages aussi. Donc, la journée était découpée entre... Faire des plans de nature, aller chez François, filmer Michel. Donc c'est plutôt comme ça, essayer de rythmer un peu les journées pour que ce soit pas trop lourd pour tout le monde.
Tu dis que tu avais tourné pendant une année, en fait, c'est ça? C'est, oui. Ça, c'est la durée, évidemment, du premier jour au dernier jour. Et t'as tourné combien de jours? Enfin, tu sais, t'avais un nombre de jours illimité, ou alors au contraire, la prod t'avait dit t'as 45 jours, parce que ça joue aussi, évidemment, oui, dans le rapport au personnage.
Oui, c'est clair. J'avais, je crois, de tête 21 jours, quelque chose comme ça. Voilà.
Petit, c'est presque rien.
c'est pour ça que les journées étaient très occupées.
Ouais. Ah, bravo.
Et du coup, 21 jours que tu as répartis sur une année.
Exactement.
En disant, ouais, faut que j'ai aussi les saisons, faut que j'ai.
Ouais, c'est ça.
Ok. Mm. Ouais, ça fait un sacré défi aussi d'organisation. On voulait aussi aborder une question qui concerne vraiment les dispositifs des films. Et notamment, Michael, parler avec toi des archives. On a eu le sentiment, et c'est ce qui est dit dans le film d'ailleurs, que le film avait fait ressurgir des archives. Et donc non seulement une parole qui avait été enfouie, qu'ils reparlaient de leur frère, mais aussi des archives. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ça?
Oui, sur les archives, ça c'est un autre point évidemment commun qu'on a avec Mélie sur l'utilisation des photos, de faire rentrer la photo, cette mise en abîme que permet la photo, et de faire parler. Donc sur les archives familiales, et ça a été une découverte totale. Alors d'une part sur tout ce qui concerne la photographie, puisque de la même façon qu'il n'y avait aucune photo d'Albert dans aucun des trois foyers, que ce soit de Roger, Nicole ou Colette, il n'y avait pas de photo sur la cheminée. Il n'y avait rien. Dans des albums, on savait qu'il y avait des albums en haut, chez Roger, dans le fond du armoire. Donc là, en effet, j'ai été les chercher et j'ai découvert des photos d'Albert et j'ai découvert l'ambiance de l'Algérie des années 30, des années 40. Et ça, ça a été une totale découverte. Et puis, en fait, un des liens qu'on a utilisé aussi, c'est qu'on a été chercher des archives de cette époque-là, parce que finalement, les archives familiales ne suffisaient pas pour décrire une ambiance, pour décrire des paysages, parce que c'est à l'époque, on ne photographiait pas forcément tout. La pellicule était peut-être chère aussi, donc on avait des portraits de famille assez statiques, mais on n'avait pas de vue du port d'Oran, on n'avait pas de vue de la montagne du Santa Cruz. Et en fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire rentrer quelque chose d'un peu plus vivant ? Ben, on a été dans les archives, qui sont des archives qu'on peut trouver. Donc, c'est par exemple dans la région Bretagne, un immense stock de photographies et de films. Mais c'est des films et des photographies amateurs. On voulait que ça soit pas extrait, évidemment, de médias, en quelque sorte, même si à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais on voulait que ça soit des films amateurs ou des photographies amateurs. Et donc, on a évidemment été de les chercher dans la région, en Algérie, etc. Mais c'était une façon de les rendre vivants. Et d'ailleurs, on a bien fait, parce qu'il y a un moment, il y a une sorte de panoramique... en film sur le port d'Oran qui commence par la jetée et puis qui arrive sur les barques qui ont des numéros d'immatriculation très précis. Et là, vraiment par hasard, on avait une photographie d'Albert en train de se baigner en bas d'une de ces barques-là. Et donc, on passe de l'image animée à cette photographie-là qui était une des seules qu'on avait de lui dans la mer. Et ça nous a permis de faire des jonctions comme ça. Et puis, pour terminer... j'ai commencé à filmer, à être de plus en plus proche de Roger, Roger a commencé à sortir d'autres papiers que là on n'avait jamais vus, et ces papiers, ça c'était surprenant pour tout le monde parce que personne n'en avait vraiment la connaissance. Les photos, on savait que c'était dans l'album rouge en haut de l'armoire. Mais il a sorti des lettres qui s'envoyaient, que Albert et lui s'envoyaient pendant la guerre. Et ça a été vraiment une surprise parce qu'on a pris conscience de la densité du lien qui les unissait, et c'est très très beau, et c'est une des séquences que je préfère puisque finalement je fais lire à Nicole une des lettres que Albert écrit à Roger, et puis Colette lit la même lettre. En fait, on s'est posé la question de savoir finalement s'il fallait lire une autre lettre. Maintenant, elles lisent la même lettre avec des tons différents, avec des intonations différentes. Et puis Roger lit aussi cette lettre il a accepté que je puisse les avoir. Il lit lui aussi une lettre. Et puis finalement, cette séquence de ces trois personnes qui disent la lettre de leur frère qui n'est plus là, ça les réunit les quatre finalement. C'est le moment du film où ils sont les quatre ensemble avec les mots d'Albert, et les archives, je les ai utilisées dans ce sens-là parce que finalement, de quelque chose, les archives, ça évoque le passé. Et ben là, on les avait au présent ensemble. Et les archives nous ont permis finalement, parce que maintenant la famille s'est agrandie, il y a des petits-enfants, grâce aux archives, on peut parler aussi du futur, et les enfants et les petits-enfants connaissent maintenant Albert grâce à ce passé retrouvé.
On va lancer l'extrait justement qu'on avait choisi avec la lecture des lettres croisées de la correspondance d'Albert et Roger.
Oh là là, oh c'est terrible. Colette les a lus ? Es-tu toujours à Albanova ? Le 12 mars 44. Je viens de recevoir ta lettre. Es-tu toujours à Albanova ? Fais attention aux femmes, elles sont toutes malades. Oh ! On campe dans une forêt d'oliviers en pleine nature. Je passe les meilleurs moments depuis que j'ai débarqué en Italie. Notre section a ballon. On joue toute la journée au football ou au volley, comme l'autre jour le docteur a déclaré que j'étais bâti comme un Hercule. Je suis constamment torse nu. Le fait est que je suis encore balèze, mais cependant bien moins qu'à Oran. Ici, c'est au poil, au moral comme au physique, je fais le point. Je me lave et j'arrange mes affaires, et surtout, je me laisse aller au charme du printemps. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de couleurs. Est-ce que Tipper t'a écrit ? Il paraît que M. Lubrano a une nouvelle barque toute neuve qui n'attend que nos biceps. Ici, c'est au poil, au moral comme au physique. Je fais le point, je me lave, j'arrange mes affaires et surtout, je me laisse aller au charme du printemps. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de couleurs. Est-ce que Tipper t'a écrit ? Il paraît que M. Lubrano a une nouvelle barque toute neuve qui n'attend que nos biceps. Salut, Albert. Pourquoi Roger ne nous a jamais montré ses lettres ? C'est curieux. C'est très, très, très curieux. Je n'arrive pas à... Quand même, on était ses sœurs très
si proches, tu vois. Je comprends pas qu'ils ne les aient pas montrés. On aurait réagi quand même. C'est un mystère, Roger est un mystère.
En montant, mets ton pantalon de drap et un pantalon de treillis par-dessus. Emporte au moins 5 ou 6 jours de chaussettes et autant de mouchoirs et de quoi laver. Ta division vient seulement de monter et va rester en haut encore au moins 45 jours. Mais c'est pas vrai. Mais je savais pas qu'il avait cette attitude protectrice et maternelle. Si tu as besoin ou même simplement envie de quoi que ce soit, écris-moi, je te l'enverrai de suite. Car je veux que tu me le promettes. Je n'ai que ça à faire que de m'occuper de ce que tu pourrais me demander. Puisque je suis au repos et que je descends en nappe tous les 5 jours. Écris régulièrement à la maison et très souvent. Ne serait-ce que bonjour, parce qu'avec nous deux ici, ils doivent être plutôt inquiets. Ah, c'est terrible. C'est trop. Je continuerai une autre fois, mais je peux pas.
Michael, on vient d'entendre du coup la lecture croisée de la lettre d'Albert. Et en reprenant du coup vos deux documentaires, on a eu l'impression qu'il y avait deux quêtes qui se faisaient de manière extérieure pour ta part. On avait l'impression que tu étais extérieure à la quête de ta mère et de ton oncle et de ta tante. Et à la fois, quand on entend... quand on entend cet extrait, on se dit que toi aussi, tu as débloqué des choses pour eux dans leur recherche. Et Amélie, de ton côté, on a l'impression que tu es partie prenante dès le départ de cette quête et que finalement, c'est à l'inverse, c'est tes protagonistes qui viennent enrichir ta quête. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus ou comment... Comment ça s'est passé pour vous ?
Rapidement pour laisser la parole à Amélie, mais oui, je l'ai déjà dit un petit peu auparavant, donc c'est vrai que moi au début, je pensais qu'il fallait les laisser faire et les laisser galérer. Et puis, comme ça n'avançait pas à certains endroits, oui, j'étais obligé à un moment d'appuyer sur le bouton, oui, à un moment j'étais obligé d'appeler l'ambassade ou d'être en contact avec le cimetière militaire à Oran, parce que voilà, c'était difficile, délicat, il fallait obtenir un nombre de pièces administratives complètement dingue, mais ce qui était parfaitement enthousiasmant, c'était que c'était une quête, comme tu l'as dit, et que ça donne un rythme à un film, et c'est-à-dire que dans les films documentaires, il y a un moment, des bons personnages, une action, quand je dis dramatique, mais en tout cas quelque chose qui doit se passer, et puis cette chose-là doit être résolue, et donc il doit y avoir une conclusion. Et c'est vrai que là, dans Albert, l'idée c'était d'aller récupérer ce cercueil, de le ramener en France, et j'ai essayé d'être le plus neutre possible, mais qu'à un moment, oui, j'étais quand même obligé d'appuyer pour faire avancer cette quête-là. Ouais.
Et juste pour rebondir ce que tu dis sur le fait que tu fasses ce film, ça a fait que Roger a ressorti ses lettres. Est-ce qu'on ne sait pas s'il les aurait ressorties si
Je pense qu'on n'aurait jamais vu ces lettres autrement. Ouais. C'est sûr que ça... Alors, on ne fête toujours pas l'anniversaire de la mort d'Albert à la maison. Il n'y a toujours pas de choses, parce que je pense que cette pudeur restera éternellement dans notre famille. Mais par contre, ça a complètement libéré Colette et Nicole sur la parole, la présence de leur frère, pouvoir en parler librement, parce que maintenant, il existe quelque chose, un film, qui s'est fait avec elles, mais qu'elles n'ont pas réalisé elles, et donc elles peuvent s'y référer et l'envoyer, et le donner à voir. Et donc là, ça a vraiment changé quelque chose pour elles dans leur perception de la cohabitation, entre guillemets, avec Albert.
Et du coup, Amélie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? On arrive assez rapidement à la fin de l'émission, mais on voulait t'écouter aussi sur Voilà, sur cette, effectivement, sur ce projet photo qui a de l'importance dans ton film et qui, comme je le disais tout à l'heure, il est aussi un moyen de parler, et tu le disais tout au début, un moyen d'aborder des sujets assez profonds. Et dans tous les moments où tu filmes, les moments où tu photographies, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Et il y a une parole qui se libère aussi sur le couple, sur plein de choses.
Oui. Bah, c'est vrai qu'au début, moi je pense que mes personnages comprenaient pas trop l'intérêt, enfin comment dire, mon maquette justement, ou alors la comprenaient pour une archive familiale. Et petit à petit, ils se sont saisis des outils d'image que je leur proposais, et pour peut-être justement à leur manière. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont faites très spontanément. Par exemple, Rosita et Bernard, qui est donc le couple qu'on voit, tout ça s'est fait très spontanément. Et je pense que certaines aussi saisies de l'image comme une manière de laisser une trace à leur famille. Et je pense que ça s'est aussi beaucoup vu dans... en fait, on a fait deux expositions avec les photographies, également des projections. Et ma grand-mère comprenait pas pourquoi des inconnus s'intéresseraient à leur vie sans importance. Et en fait, je pense qu'elle a saisi tous les enjeux qu'il pouvait y avoir derrière quand elle a assisté, par exemple, à l'avant-première du film. Et aussi, à un moment, lors de cette avant-première, il y a une jeune réalisatrice qui est venue la voir en lui demandant mais comment Amélie a réussi à vous convaincre de faire un film, parce que moi j'aimerais bien faire un film sur ma grand-mère mais pour l'instant elle veut pas trop. Et donc elle lui a expliqué pourquoi elle a été convaincue, et elle lui a dit ben si tu veux moi je peux appeler ta grand-mère et puis je la convainc de partir dans l'aventure avec toi. Donc je pense que voilà, tout ça synthétise un peu ce qui s'est passé, donc ce phénomène inverse où elle s'est saisie en tout cas de ces outils d'image pour voilà, transmettre en fait aussi plein de choses sur leur vie au présent et toute cette génération, quoi.
Et quand tu fais des photographies en général, est-ce que ça t'arrive de poser ce genre de questions sur décris-moi ce que tu vois, parler du lieu où ils sont, enfin est-ce que tu fais ça d'une manière générale ou est-ce que c'est vraiment pour le film?
Je pense que j'essaie effectivement de trouver des méthodes pour pas que le moment de la photographie soit quand même assez détendu. Et si j'instaure quand même un dialogue souvent avec les personnes, en fonction des personnes, quoi. Ça dépend des sujets qu'on aborde. Après là, comme c'est ma famille, et c'est vrai que j'aurais jamais été par moi-même sur le terrain de l'amour ou de la mort. C'est difficile quand même d'aborder ces questions de front. Donc c'est vrai que l'image, en fait, ça permet d'aborder ça, et même aussi la question de ce que c'est de se voir vieillir, en fait. Le film parle beaucoup de ça, quand même, aussi. Mm-hmm. Et du manque d'image, et du moment où, en tant qu'individu, elles et eux ont arrêté aussi de se photographier, puisque leur vie était différente et un peu moins intéressante, selon eux, alors que... Je pense que c'est surtout des représentations et aussi des normes de sociétales autour de la question de la représentation qu'elles ont intégrées à un moment donné. Donc voilà, c'est vrai que ça a permis de débloquer toutes ces choses-là et d'amener des sujets que j'aurais jamais pu aborder sans cet outil qu'est la photographie.
D'accord, donc merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. C'était une discussion très riche et intéressante. On va passer maintenant la parole à la personne qui va présenter l'agenda.
Et la personne qui présente l'agenda, c'est moi, Mélanie. Donc, on commence cet agenda avec Roméo et Christina de Nicolas Hans-Martin, mardi 8 avril. Donc ce sera la Maison des Réfugiés et la médiathèque James Baldwin dans le 19e, c'est dans le cadre d'un docu près de chez vous. Vendredi 11 avril, Le bruit sourd de nos pas, un film sur le deuil, c'est en présence de sa réalisatrice Tara Braun. C'est à 20h au Théâtre Cinéma du Garde-Chasse au Lila. Face à deux destins arrachés par la violence patriarcale, père et fille tentent de se retrouver. Le 11 avril, toujours, mais cette fois à 19h30 et aux Ateliers Varan, vous pourrez voir Terremoto, un film de Frédéric Bernard qui parle du désert de Lorca, un village espagnol qui se dépeuple. Enfant, Frédéric Bernard, le réalisateur, y passait tous ses étés. Au fil des années, l'agriculture intensive a modifié le paysage, donnant à voir un territoire de fin du monde ravagé par les politiques néolibérales. C'est l'histoire d'une lutte et d'un territoire qui résiste. Mercredi 16 avril à la librairie Publico, le film de Bernard Serre, Ravachol, ce sera à 20h, 145 rue Amelot dans le 11e. Le film interroge sur l'utilisation de la violence en politique. Les conditions ne sont-elles pas réunies aujourd'hui pour faire naître de nouveaux Ravachol? Vous en débattrez. Vendredi 18 avril, vous pouvez voir ou revoir Z de Costa Gavras, l'adaptation du livre de Vassilis Vassilikos. À Thessalonique, c'est l'histoire du député progressiste assassiné par la police et l'armée en mai 63. La projection et le débat sont à l'initiative du groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste. Mardi 29 avril, à 20h, au cinéma Le Méliès, vous pourrez assister à l'avant-première du film Conversation de Bertrand Meunier, en présence du réalisateur. Le film se passe dans la maison centrale de Poissy en 2016. Deux chaises se font face, s'y succèdent condamnés à perpète ou surveillants pénitentiaires. Tant qu'aucune insulte ni menace n'est proférée, les échanges menés à visage découvert sont complètement libres. Allez voir ainsi converser, on croirait presque assister à des discussions entre collègues et pourtant ce sont bien deux mondes qui s'affrontent. Mardi 29 avril, Le silence de Violette, là c'est une adocienne, c'est Julie Biraud. Donc ça sera à Rouen, c'est au cinéma L'Omnia. C'est un film sur la vie de Violette Nozière. Toujours sur les adociens, on a deux films en ce moment qui sont sélectionnés à Vision du Réel en Suisse. Donc il y a Deux Rives de Thibaut Verneret. Donc c'est l'histoire d'un rapprochement entre deux frères. L'un a fait de la prison en Guyane et l'autre le film. Le second s'intitule Les Recommencements, c'est d'Isabelle Ingold et Viviane Perel-Müller. Almoun mène une vie solitaire sur le territoire de la nation Yurok, en Californie. Entouré de violences et de menaces écologiques, ses angoisses liées à la période où il a combattu au Vietnam refont surface. Poussé par le désir de se confronter à son passé, il amorce un voyage à travers le pays, se rapprochant ainsi d'un secret qui le hante depuis des décennies. Et puis mercredi 30 avril, à 19h30, il y aura la projection du film Frida TV, en présence de Léa Lanoé, la réalisatrice. C'est un film étonnant et émouvant qui dresse le portrait de Gerda Janet Gruger, une poétesse punk très amusante. Ce sera au Forum des Images, dans le cadre du cycle Outsider, par la Cinémathèque du Doc. Donc on rappelle aussi que dans le cadre de Culture en Lutte, il y a de nombreuses manifestations, il y a des mobilisations un peu partout en France. Il faut donc se renseigner sur Internet. Vous pouvez retrouver la plupart de ces informations et surtout toutes nos émissions. On a déjà traité le sujet depuis novembre 2019 sur notre nuage de son SoundCloud, accessible sur notre site adoc.net, A-D-O-C.net. Bon après-midi, à bientôt.